Il n'y avait donc à la maison que les mômes qui étaient les permanents. Et ça faisait surtout moi et Banania, qui ne payait plus depuis un an, mais qui s'en foutait complètement et faisait comme chez lui. Il y avait aussi Moïse, mais il était déjà en instance dans une famille juive qui voulait seulement s'assurer qu'il n'avait rien d'héréditaire. Parce que c'est la première chose à laquelle il faut penser avant de se mettre à aimer un môme si on ne veut pas être embêté plus tard. Le docteur Katz lui avait fait un certificat, mais ces gens-là voulaient bien regarder avant de plonger. Banania était encore plus heureux que d'habitude. Il venait de découvrir sa quéquette et c'était la première chose qui lui arrivait. J'apprenais des trucs auxquels je ne comprenais absolument rien, mais Monsieur Hamil me les avait écrits de sa main et ça n'avait pas d'importance. Je peux vous les réciter encore parce que ça lui ferait plaisir. Ça veut dire que celui qui aime Dieu ne veut rien d'autre que lui. Moi, je voulais bien plus, mais Monsieur Hamil me faisait travailler ma religion. Car même si je restais en France jusqu'à ce que mort s'en suive, comme Monsieur Hamil lui-même, il fallait me rappeler que j'avais un pays à moi, et ça vaut mieux que rien. Mon pays, ça devait être quelque chose comme l'Algérie ou le Maroc. Même si je ne figurais nulle part du point de vue documentaire, Madame Rosa en était sûre. Elle ne m'élevait pas comme arabe pour son plaisir. Elle disait aussi que pour elle, ça ne comptait pas. Tout le monde était égaux quand on est dans la merde. Et si les juifs et les arabes se cassent la gueule, c'est parce qu'il ne faut pas croire que les juifs et les arabes sont différents des autres. Et c'est justement la fraternité qui fait ça. Sauf peut-être chez les Allemands où c'est encore plus. J'ai oublié de vous dire que Madame Rosa gardait un grand portrait de Monsieur Hitler sous son lit, et quand elle était malheureuse, elle ne savait plus à quel saint se vouer, elle sortait le portrait, le regardait, et elle se sentait tout de suite mieux. Ça faisait quand même un gros souci de moins. Je peux dire ça à la décharge de Madame Rosa? Comme juive, c'était une sainte femme. Bien sûr, elle nous faisait bouffer toujours ce qui coûtait le moins cher, et elle me faisait chier avec le ramadan quelque chose de terrible. 20 jours sans bouffer, vous pensez, c'était pour elle la manne céleste, et elle prenait un air triomphal quand le ramadan arrivait, et que j'avais plus le droit au gefilte fish qu'elle préparait elle-même. Elle respectait les croyances des autres, la vache, mais je l'ai vue manger du jambon. Quand je lui disais qu'elle n'avait pas le droit au jambon, elle se marrait, et c'est tout. Je ne pouvais pas l'empêcher de triompher quand c'était le ramadan. Et j'étais obligé de voler à l'étalage de l'épicerie dans un quartier où j'étais pas connu comme arabe. C'était donc chez nous un dimanche, et Madame Rosa avait passé la matinée à pleurer. Elle avait des jours sans explication où elle pleurait tout le temps. Il ne fallait pas l'embêter quand elle pleurait, car c'était ses meilleurs moments. Ah oui, je me souviens aussi que le petit Viet avait reçu le matin une fessée parce qu'il se cachait toujours sous le lit quand on sonnait à la porte. Il avait déjà changé 20 fois de famille depuis 3 ans qu'il était sans personne et il en avait sérieusement marre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais un jour j'irai voir. D'ailleurs, les sonnettes ne faisaient du bien à personne chez nous, parce qu'on avait toujours peur d'une descente de l'assistance publique. Madame Rosa avait tous les faux papiers qu'elle voulait. Elle s'était organisée avec un ami juif qui ne s'occupait que de ça pour l'avenir depuis qu'il était revenu vivant. Je ne me souviens plus si je vous ai dit, mais elle était aussi protégée par un commissaire de police qu'elle avait élevée pendant que sa mère se disait coiffeuse en province. Mais il y a toujours des jaloux, et Madame Rosa avait peur d'être dénoncée. Il y avait aussi qu'elle avait été réveillée une fois à 6 h du matin par un coup de sonnette à l'aube, et on l'avait emmenée dans un vélodrome, et de là dans les foyers juifs en Allemagne. C'est donc là-dessus que M. Nda Amédé est arrivé avec ses deux gardes du corps pour se faire écrire une lettre, dont celui qui avait tellement l'air d'un faucheton que personne ne pouvait l'encaisser. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris en grippe, mais je crois que c'était parce que j'avais 9 ou 10 ans et des poussières, et qu'il me fallait déjà quelqu'un à détester comme tout le monde. Monsieur Nda Amédé avait mis un pied sur le lit, et il avait un gros cigare qui jetait des cendres partout sans regarder à la dépense, et il a tout de suite déclaré à ses parents qu'il allait bientôt revenir au Niger pour vivre en tout bien tout honneur. Moi, maintenant, je pense qu'il y croyait lui-même. J'ai souvent remarqué que les gens arrivent à croire ce qu'ils disent. Ils ont besoin de ça pour vivre. Je ne dis pas ça pour être philosophe. Je le pense vraiment. J'ai oublié de préciser que le commissaire de police, qui était un fils de pute, avait tout appris et tout pardonné. Il venait même parfois embrasser Madame Rosa, à condition qu'elle ferme sa gueule. C'est ce que Monsieur Hamil exprime quand il dit que tout est bien qui finit bien. Je raconte ça pour mettre un peu de bonne humeur. Pendant que Monsieur Nda Amédé parlait, son garde du corps de gauche était dans un fauteuil qui se tenait là, en train de se polir les ongles, pendant que l'autre ne faisait pas attention. J'ai voulu sortir pour pisser, mais le deuxième garde du corps, celui dont je vous parle, m'a saisi au